Objectif municipal. Les candidats aux élections locales des 15 et 22 mars 2026 face aux journalistes de nos rédactions.
Bonjour Damien Maudet. Aujourd'hui, on reçoit le candidat tête de liste de la liste Limoges Front Populaire, c'est ça ?
C'est ça, union de la gauche sociale et écologiste.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour. En présence de Yasmine Kichou, notre journaliste.
Bonjour.
Yasmine, je crois que vous avez préparé un petit portrait pour Damien Maudet.
De Monsieur Maudet, en effet, Denis, merci. Alors oui, aujourd'hui, donc, dans cette campagne des élections municipales 2026 à Limoges, une candidature qui retient l'attention tant par son profil que par ses ambitions. Celle de Damien Maudet, député insoumis de la Haute-Vienne et tête de la liste Limoges Front Populaire. À seulement 29 ans, Damien Maudet est l'un des visages les plus jeunes de cette élection municipale. Élu député depuis 2022, puis réélu en 2024, il siège à l'Assemblée nationale sous l'étiquette La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, où il défend notamment les questions sociales et budgétaires et s'implique dans les travaux de la Commission des Finances. Sa candidature à la mairie de Limoges s'inscrit dans un projet politique ambitieux, faire de Limoges une ville fière, verte et solidaire. En rompant avec une majorité municipale de droite qu'il juge depuis trop longtemps installée. Pour cela, Damien Maudet conduit une liste d'union rassemblant la France Insoumise, les écologistes et Génération S, portée par une volonté de relancer une gauche sociale et écologique à Limoges. Parmi les propositions phares qu'il met en avant figure la gratuité élargie des transports en commun, un grand plan de végétalisation, des centres de santé de proximité et un plan zéro enfant à la rue. Autant d'idées qui mêlent justice sociale et préoccupations environnementales. Sur le terrain politique, Damien Maudet dit vouloir s'adresser à l'ensemble des habitants de Limoges afin de mobiliser au-delà des militants partisans. Sa candidature intervient toutefois dans un contexte de gauche limougeaude divisée avec plusieurs listes concurrentes, ce qui pose la question des alliances et des rapports de force à l'approche du second tour. Comment compte-t-il traduire son projet, ses idées en action pour la ville ? Réponse tout de suite avec Damien Maudet au micro de Denis Lespiot.
Merci Yasmine. Donc Damien Maudet, vous avez commencé fort votre campagne en affichant très, très vite votre ambition d'être le prochain maire de Limoges. À votre âge, c'est une grande ambition. Mais en même temps, comme vous êtes le seul parlementaire en lice cette fois-ci et que les Limougeaux aiment bien les parlementaires à la tête de leur ville, même si d'aventure vous étiez élu maire, vous seriez obligé d'abandonner votre mandat. Peut-être que vous allez nous dire dans quelles conditions un peu plus tard dans cette interview. Toujours est-il que, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre liste, comment vous l'avez composée, au service donc de ce projet, fier, écologiste et solidaire, d'après ce que votre communication électorale. Je crois qu'il y a une forte minorité de gens qui n'ont aucune appartenance politique sur votre liste.
Déjà, merci beaucoup, merci pour le portrait, Mme Kichou, merci à M. Lespiot, et merci à Kaolin et au Graal aussi pour l'invitation, et merci aux techniciens bien silencieux aujourd'hui. En effet, déjà, dire que ce que l'on souhaite porter, c'est évidemment une liste qui, évidemment, a son orientation politique. On est des femmes et des hommes de gauche, écologistes, mais on souhaite aussi porter une liste citoyenne. On a 45% aujourd'hui, un peu plus même, de personnes qui sont sur la liste qui n'appartiennent à aucun parti, donc quasiment la moitié des candidats, et ce sera la moitié des élus. C'est aussi une liste qui se veut.
Et cette semaine, en plus, pardonnez-moi, vous avez eu le renfort de deux colistiers de Julie Benzouni qui voulaient porter une liste citoyenne de gauche, et puis finalement qui a décidé de ne pas ajouter de la division à la division, et donc de faire en sorte de vous rejoindre.
C'est ça. Il y a la liste donc Révons Limoges qui était une liste citoyenne, vous l'avez très justement dit, et ça faisait longtemps qu'on avait des discussions ensemble et qui ont jugé que sur le fond, sur la forme, c'était notre liste qui représentait le mieux leurs idées. Et donc à l'aune de ne pas déposer de liste, ils ont décidé de... Donc on a deux personnes de chez eux qui sont venues sur la liste mais qui, qui aurait pu venir quand même. Et donc Jean-Pierre Orfèvre, qui est engagé dans des maraudes solidaires à Limoges depuis 97, et Sophie Lévis, qui est metteuse en scène. Et aujourd'hui, effectivement, ils nous soutiennent. Et je pense qu'ils soutiennent aussi la dynamique démocratique, beaucoup de participation citoyenne. Et juste un dernier mot, notre liste se veut aussi représentative. C'est important que ce soit dans les métiers. Je pense que c'est la liste, à mon avis, une des plus variées en termes d'emploi, par exemple. Il y a assez peu de personnes. On aime bien dire 95% des gens touchent 0 euro de la politique. C'est pas une liste d'assistants parlementaires, c'est pas une liste d'assistants d'élus, c'est pas une liste composée d'élus qui vont cumuler lorsqu'ils seront en fonction. Et aussi 20% de personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a 20% de Limougeaux qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc nous, ça nous semblait quand même l'évidence qu'ils soient représentés à leur juste place dans cette liste, parce que très souvent, c'est les grands absents. Il n'y avait que 2 élus qui habitaient en quartier prioritaire sur les 55 élus sortants, ce qui est complètement scandaleux. Et donc je pense que c'est important qu'il y ait de la représentativité. C'est toutes celles et ceux qui font Limoges, et parce qu'on aime bien dire, parce qu'ils et elles sont Limoges.
Donc une liste a priori qui est représentative de la sociologie de la ville, pour un projet qui se veut ambitieux pour la ville, avec un projet qui de toute façon va très au-delà de l'horizon 2035-2040, puisque quand on veut amorcer une transition écologique, on travaille vraiment pour l'avenir.
Mais déjà, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure en introduction. Moi, je reproche pas à la droite d'être depuis trop longtemps installée. Je lui reproche le fait que son installation fait partir des Limougeaux. Et d'ailleurs, même les mandats précédents, Limoges, en 10 ans, a perdu plus de quasiment 10 000 habitants qui ont décidé de quitter la ville.
En même temps, c'est pas uniquement la faute de la gestion municipale, c'est aussi le fait que Limoges n'est plus capitale régionale.
Mais Clermont non plus. Et Clermont ne perd pas d'habitants. Et pourtant, Clermont a le même train que nous. Donc, je veux bien qu'à chaque fois, on se trouve des excuses parce que Limoges serait... Évidemment, moi, j'étais contre les nouvelles régions. Hein. Je suis très tranquille là-dessus. Par contre, toutes les villes comparables aujourd'hui, Limoges se retrouve dans une situation où la ville-centre perd énormément d'habitants, ce qui n'est pas le cas des villes qui nous ressemblent. Et pareil, sur la vitalité économique, Arthur Lloyd, alors que franchement, c'est pas des gens bien à gauche...
Le cabinet,
qui ont fait une étude, disent que Limoges, par rapport à des villes comparables, est 16e sur 16 en termes de vitalité économique. Et les villes écologistes, elles, sont souvent bien en tête de leur propre classement, comme c'est le cas, par exemple, de Poitiers. Et quand on veut porter une ville pour l'avenir, c'est une ville qui arrête de perdre ses habitants ou des gens ont envie de rester en ville. Et cela, ça passe aussi quand on dit fière, verte, solidaire. C'est une ville solidaire qui assure le minimum à chacun, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, le fait de pouvoir se soigner tout simplement, parce que vous savez, à Limoges, il y a plus de personnes sans médecin traitant que dans le reste du pays, enfin en moyenne. C'est aussi une ville qui permet aux enfants de pouvoir aller à l'école, les fournitures scolaires sont proposées par la mairie, le fait qu'il y ait des cantines bio locales moins chères, et c'est une ville, quand on dit verte, c'est aussi parce que bon, ça se voit, aujourd'hui Limoges est la capitale du Limousin. Moi, j'ai envie que Limoges redevienne la capitale de la Haute-Vienne, du Limousin. Quand on parle de cantines bio locales, c'est aussi faire vivre nos agriculteurs en Haute-Vienne. Mais le problème qu'a notre ville, c'est que c'est la capitale du Limousin, mais elle ressemble à tout sauf au Limousin. Je dirais, c'est une ville qui est aujourd'hui malheureusement minérale. Quand on voit la place de la République, la place de la Motte, il y avait 2 pauvres arbres. Ils ont été enlevés. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a rien n'est pensé pour mettre du vert dans la ville, une ville qui soit rafraîchie, colorée aussi également. J'en parlais avec plusieurs personnes qui travaillent sur l'histoire de la ville aussi. Comment on fait pour qu'on ait une ville qui soit plus agréable en ce sens-là? Et après, et donc c'est la rendre verte, avoir des fontaines. La Vienne qui devrait être exploitée est une Vienne baignable aussi. Faire de production d'énergie municipale. Et enfin, un dernier point, comme ça, après, je vous laisse, mais et tout ça, pour moi, ramène à la question de la fierté. Aujourd'hui, je pense qu'on a, on va le dire, c'est un petit tabou, mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'on pense que je regrette des fois que notre ville soit parfois moquée, etc. Alors qu'en fait, on peut être la capitale du bien vivre, la capitale aujourd'hui pour tout cela. C'est la ville à la campagne, la campagne à la ville. On est proche du Limousin. On a tout ce qu'il faut pour rayonner. On a des savoir-faire ancestraux. Limoges est une des rares villes de France qu'on peut voir dans le monde entier. Dans des musées à New York, comme dans d'autres, comme dans le reste du monde. C'est une des rares villes de France. Il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont dans ce cas-là. À nous de faire briller ses fiertés, ses savoir-faire. Notre ville, elle a 2000 ans d'histoire.
Et comment vous comptez justement à ce propos, concrètement, attirer les actifs, les étudiants, par exemple, dans notre ville?
Bah déjà, tout simplement, sur la question des étudiants, je pense qu'il faut une politique pour les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des filières qui sont menacées à l'université. Et j'entends rarement la mairie vouloir les défendre. Alors ça passe par l'université, ça passe par toutes les hautes...
Je rappelle que vous avez été responsable étudiant à une...
Exactement, et je me suis beaucoup battu.
C'est un sujet que vous connaissez bien.
Ouais. Ouais, bien sûr, et puis j'étais dans une cité universitaire qui était dans un état déplorable, on s'est battu pour qu'elle soit rénovée. Par ailleurs, avoir une nouvelle cité universitaire à Limoges, ce serait peut-être pas du luxe non plus, ça pourrait permettre de dynamiser certains quartiers. Je pense aujourd'hui que la ville, sur la partie... Il y a plusieurs choses, je veux dire sur la partie économique. Je pense que la ville doit être beaucoup plus proactive, par exemple, pour favoriser le commerce en ville, en centre-ville, avoir un centre-ville aujourd'hui qui est marchable, cyclable, où tout le monde cohabite entre les piétons, les voitures, les bus, etc., qui doit être végétalisé, comme je dis, qu'on pourrait avoir aussi des jeux pour enfants. On est quand même une des rares villes où on dirait que les enfants n'existent pas dans cette ville. Vous êtes en centre-ville, vous faites vos courses, il n'y a pas un endroit pour que vos enfants puissent aller jouer, il n'y a pas de lieux conviviaux. On dirait que rien n'est pensé en ce sens. Ensuite, sur la partie économique, je pense que la ville peut être plus proactive. Par exemple, sur les locaux commerciaux, on a plus un taux de locaux commerciaux plus élevé qu'à Brive-la-Gaillarde, par exemple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une politique assez forte là-dessus. On pourrait imaginer une foncière qui pourrait préempter certains locaux pour les rénover et les relouer, parce qu'aujourd'hui, vous savez que si les locaux commerciaux sont en grande partie désertés, c'est parce que les loyers sont excessifs. Et que quand des entrepreneurs veulent s'installer aujourd'hui dans la ville de Limoges, c'est soit trop cher, et puis quand ils ont le loyer, ce sont souvent des passoires thermiques. Donc d'où l'intérêt de racheter, relouer et rénover. Bah, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir ici notamment. Il y a aussi une question de préférence locale pour les entreprises. Mmh. Moi, je pense que quand il y a un marché de Noël, par exemple, il faut que les entreprises qui ont accès au chalet en premier, ce soient les entrepreneurs locaux. Et je pense que même sur les appels d'offres pour les TPE, PME, quand il y a des travaux, il y en aura à faire, parce qu'aujourd'hui, si on veut que la ville soit verte, il y a du boulot. Et bien là, il faut travailler avec elle l'appel d'offres pour faire en sorte qu'elle puisse y répondre et que les TPE, PME du secteur, les artisans puissent en profiter.
Alors, on le remarque, vous ne manquez pas d'idées. Si on devait choisir une seule de vos idées, quelle première décision symbolique vous prendriez si vous étiez, si vous êtes élu maire? Alors, c'est quoi la première décision envisagez de prendre?
La toute première, c'est avec un effet immédiat, c'est ça?
Oui.
Ok, bon d'accord. Alors, tout premier avec un effet immédiat, c'est la gratuité, c'est la proposition de kit de fourniture scolaire dès la rentrée pour les parents.
D'accord. Et pour financer tout ça, dans un contexte de contraintes budgétaires, comment vous envisagez de financer tout ça pour la collectivité?
Nous, on a fait nos calculs de notre côté. D'ailleurs, quand on regarde même les autres programmes aujourd'hui, en termes d'investissement, etc., personne en fait ne dépasse beaucoup les uns et les autres. Ça reste assez sobre. Sur l'investissement, on va être sur un investissement qui est à peu près le même que celui de la ville actuelle. Cela étant dit, sur le fonctionnement, il y aura une augmentation des dépenses de fonctionnement sans toucher. Alors, c'est un peu technique, et moi, pareil, hein, je veux pas faire de la technique pour endormir, ça va endormir tout le monde, mais en gros, aujourd'hui, la question, c'est comment on peut dépenser un plus en fonctionnement sans pour autant rogner sur les investissements. Bon, et bien, nous, dans le calcul qu'on a fait, on pense qu'il y a encore un peu de marge à toucher sur le fonctionnement sans pour autant que ça déborde sur l'investissement, et ça pourrait nous permettre de financer tout cela. Et je le dis d'autant plus que pour réparer ce qui a manqué sur cette ville, si on veut attirer des nouvelles personnes, si on veut que ça favorise aussi le commerce, etc., on aura besoin d'investissement et on a besoin aussi d'augmenter un peu le fonctionnement. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les dépenses de fonctionnement qui ont pu être enlevées, par exemple, on peut se dire, oui, ça a fait des économies. Effectivement, ils ont enlevé les médias, les correspondants de soirée. Effectivement, l'équipe de médiateurs dans la ville a été réduite. Effectivement, les associations sont de moins en moins, sont en moins bon état qu'elles ne l'étaient avant. Alors oui, tout ça, on peut se dire, ça fait des économies. Mais par ailleurs, ça fait une ville qui est moins prospère, dans laquelle il y a moins d'activités, et dans certains quartiers qui sont totalement abandonnés, et les liens se défont. Et quand les liens se défont, à la fin, on finit par le payer à un moment ou à un autre.
Alors à ce propos, depuis quelques années, on a assisté à un renforcement des effectifs de la police municipale. On observe chez un certain nombre de candidats à cette élection une espèce de course à l'échalote de qui promet d'installer le plus de caméras de surveillance ou d'embaucher davantage d'agents de police municipale, de les armer éventuellement.
Ils sont déjà armés.
Ou de les armer davantage éventuellement, installer, on va jusqu'à promettre de faire en sorte d'installer un commissariat de la police nationale dans un des quartiers de Limoges.
Oui, ça c'est la promesse du maire, c'est ça ? Le maire sortant, qui me semble par ailleurs, le commissariat de Beaubreuil notamment, il y avait, fut un temps.
Alors comment vous vous positionnez?
Il y avait des commissariats de proximité, je veux dire, il y avait des îlotiers de la police de proximité, c'est son camp politique d'ailleurs qui a détruit cette police de proximité.
Alors comment vous positionnez-vous par rapport à cette problématique de tranquillité sécurité quoi, voilà.
Alors déjà, parce qu'un premier point, je pense que c'est pas le, je suis pas persuadé que ce soit le maire qui décide aujourd'hui s'il est en capacité d'installer un commissariat de la police nationale à tel ou tel endroit.
Ça, on est d'accord.
Ensuite, la question pour moi, il y a pas de problème sur le fait de, sur les caméras, je dirais qu'il faut se poser la question aujourd'hui. Pour une caméra, deux caméras, trois caméras, des dizaines de caméras, combien vous avez d'agents en plus potentiellement? Peut-être que c'est plus intéressant d'avoir des gens sur le terrain. Mais bon, après, faudra faire à mon avis un audit de tout ça. Mais en tout cas, pour vous répondre, je pense aujourd'hui que la police municipale doit devenir une police de proximité. Je pense que c'est la meilleure réponse que l'on peut avoir pour aider la police nationale. C'est-à-dire avoir une police de proximité qui va connaître les acteurs de terrain, qui va connaître les habitants des quartiers, qui va permettre de créer du lien. Et quand la police nationale, doit intervenir grandement, la police municipale est capable de l'aiguiller.
Pardonnez-moi, mais de votre point de vue, la police municipale aujourd'hui n'est pas suffisamment présente dans les quartiers?
Elle n'est plus. La police municipale n'intervient plus en quartier.
Elle n'intervient que dans le centre-ville?
La police municipale, il faudrait que je vous retrouve la donnée, mais aujourd'hui, il faudra peut-être à vérifier, mais la police municipale, me semble-t-il, n'intervient plus du tout, je crois, en quartier prioritaire. Il faudra peut-être le vérifier auprès du maire, mais en tout cas, c'est assez rare. Et je dis juste que, par contre, ça dépend, intervenir pourquoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une police municipale, elle doit être une police de proximité, c'est-à-dire d'avoir dans la discussion aussi augmenter les effectifs de médiateurs, et que ce soit d'ailleurs par ailleurs en quartier, mais ce serait un peu essentialiser les quartiers, mais à mon avis, ça peut être aussi en centre-ville, aux abords des collèges, des lycées aussi, pour prévenir certains risques, avoir des discussions. Et cette police, de proximité, je le dis parce que c'est pas uniquement pour vous dire, voilà, la proximité, la discussion, ça va aider, ça va tout régler. Mais moi, quand je suis allé je me rappelle, la première fois dans le mandat était 2022, il y a des violences à la ZUP de Laurence et j'ai un membre de la police nationale au téléphone. Il me dit, vous savez, monsieur le député, la ZUP de Laurence, c'est le quartier le plus pauvre de Nouvelle-Aquitaine. C'est pas la police nationale qui va régler tous les problèmes. C'est la politique. C'est comment vous allez recréer du lien avec les gens. Quant à la bâtisse, il y a le commissariat qui a été aussi pris à partie. J'arrive le matin devant le commissariat, je tombe sur un agent de la police nationale et qui me dit, vous savez, monsieur le député, franchement, les 15-20 ans, on n'arrive plus à leur parler. Il n'y a plus d'association, il n'y a plus rien, donc on n'arrive pas à discuter avec eux. Ça ne veut pas dire que ça les excuse, ça veut juste dire de comment aujourd'hui, par cette proximité-là, on a une meilleure connaissance du terrain, mais aussi, il faut refaire tout un maillage associatif, d'éducateurs, là où on pense qu'il y a des zones sensibles, parce qu'il faut créer des ruptures sociologiques. Quand vous êtes dans un quartier comme La Bâtide, qui était totalement dévitalisé, dans lequel il n'y a quasiment plus une seule association, qui crée des ruptures sociologiques dans le parcours des jeunes aujourd'hui? Qui crée des ruptures sociologiques? Personne. Et il faut aujourd'hui, ça veut pas dire que quand ils font une bêtise, ils vont pas être sanctionnés, il faut le faire, évidemment. Mais par contre, il faut aussi prévenir ces erreurs. Et d'ailleurs, un dernier point, il y avait une prévention spécialisée qui existait aussi, il y avait des éducateurs de prévention spécialisée qui existaient aussi à Limoges. Il y en avait 9. Eh bien, ça a été supprimé par le conseil départemental. Je pense que c'est une grande erreur. Parce que non seulement ça prévenait aussi potentiellement des dérives chez certains jeunes, et même ça accompagnait des familles qui aujourd'hui sont moins accompagnées depuis qu'ils n'existent plus. Je pense que toute cette proximité-là, on en a besoin parce que par la suite, on finit par le payer quand la proximité est absente.
En parlant des quartiers prioritaires de Limoges, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Très rapidement, le maire actuel a tenu des propos polémiques sur les habitants des quartiers donc prioritaires il y a quelques mois de ça. Est-ce que vous considérez que ces déclarations ont fracturé la ville?
Bah déjà, j'attends toujours le retour de la procureure, puisque j'ai fait un article 40 à ce sujet qui n'a toujours pas été traité. Enfin, j'ai pas reçu la réponse. Ou alors, erreur de ma part, je vérifierai. Ça me fait penser, tiens.
Est-ce que vous considérez que les déclarations du maire de Limoges sont de nature à fracturer la ville?
Bah évidemment. Je pense que, de toute façon, je pense que c'est son objectif. Son objectif, c'est de cliver, sauf qu'il le fait sur une grande partie des habitants de Limoges, 20% des habitants de Limoges, parce que ça, globalement, ça peut essentialiser tous les habitants des quartiers et pas uniquement ceux de la ZUP de Laurence. Mais oui, je pense que son objectif, c'était de fracturer. Il n'a aucune connaissance de ce qui se passe dans les quartiers. Tout ce qu'il a fait, c'était détruire les bâtiments, mais il a surtout souvent détruit les liens, l'âme de ces quartiers-là, qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations encore plus difficiles qu'avant. Et puis lui, il arrive derrière en jetant tout le monde par-dessus bord, en disant que finalement, il avait appliqué l'étude, il parlait de l'éthologie, qui est l'étude des animaux, des comportements animaux pour parler des habitants. C'est la honte absolue. Aujourd'hui, je pense qu'il est complètement dans la dérive droite, extrême droitière. Je pense que d'ailleurs, le président de la métropole qui l'accompagne, à mon avis, est à peu près dans cette même philosophie-là, puisque d'ailleurs, il n'a pas trouvé un mot pour condamner les propos du maire. Oui, c'est la honte, ça fracture la société. Un maire, il ne devrait pas dire
et
ça.
Et on rappelle que beaucoup de nos auditeurs nous écoutent dans ces quartiers prioritaires, d'ailleurs. Damien Maudet, je me dois aussi de rappeler votre jeune âge, 29 ans. Je l'ai évoqué dans votre portrait.
Ça s'arrange de jour en jour.
Ça pose ici la question de votre crédibilité municipale. Certains disent qu'une mairie exige une expérience de gestion que vous n'avez pas encore. Que leur répondez-vous ?
C'est assez drôle. Si c'est ça l'argument, franchement, ça va, je vais m'en sortir. Aujourd'hui, il peut y avoir le jeune âge. On m'a aussi dit ça quand j'étais député, mais vous savez, en 2022, il pourra jamais être élu, il était trop jeune. Donc, j'étais le député le plus jeune de tout le Limousin. En effet, commissaire à la commission des finances, chef de file sur le projet de financement de la Sécu, donc les deux plus gros budgets que gère la nation, la sécurité sociale et la commission des finances. Et ensuite, je serais peut-être le maire le plus jeune, mais pas de très loin, hein, parce que Georges Guingouin avait 32 ans quand il a été élu maire de Limoges. Alors, je ne vais pas me comparer compte tenu de l'expérience du grand Georges, mais par contre, aujourd'hui, si vraiment le seul argument c'est l'âge, vous savez, aujourd'hui, dans la liste, il y a un ancien vice-président de la métropole, il y a des gens qui sont spécialistes de la tranquillité, des médiateurs sociaux, des personnes qui sont aux finances publiques, etc. Donc, si c'était le seul argument, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre ville a besoin de dynamisme, a besoin aussi de gens qui incarne peut-être à un moment donné, moi vous savez, je suis malheureusement de la génération de ceux qui partent. Posons-nous la question. Faisons en sorte que cette génération-là, elle reste. Regardons vers l'avenir. Et je pense que ça peut être, à mon avis, il y a beaucoup à faire. Mais si vraiment c'est une question d'âge,
vous
que je rassure
ça d'un revers de
non,
main.
Mais que je rassure tout le monde, demain ça ira encore mieux qu'hier.
On peut encore vous reprocher, Damien Maudet, de ne pas être né à Limoges, mais à Brive.
Ah ça c'est mon. Quelqu'un hier m'a dit le plus corrézien des Limougeaux. J'étais là, je dis le dis pas trop fort. Ouais c'est vrai. Ouais ça fait partie de mes défauts, mais ça fait partie aussi par ailleurs de mon attachement à l'histoire limousine et que Limoges est la capitale du Limousin. Quand on parle de la ligne Polt, quand on parle des TER par exemple, bah c'est toute mon enfance, ces TER, cette ligne Polt entre Brive et Limoges par exemple, c'est ma circonscription, c'est celle qui est au cœur du Limousin, c'est la plus au cœur du Limousin, qui n'a de frontières qu'avec les départements du Limousin. Mais oui, je suis né à Brive, écoutez, c'est comme ça, mais je ne regrette pas, de toute façon je ne peux plus y faire grand chose.
Alors vous allez dire que je m'acharne, mais je vais reparler de votre âge. Vous utilisez aussi les outils de votre génération. On rappelle que votre annonce de candidature s'est faite via une vidéo Instagram et désormais votre campagne électorale se joue sur deux plans. Vous tractez vous-même dans les quartiers et en parallèle vous investissez massivement les réseaux sociaux. Est-ce que vous considérez aujourd'hui ces réseaux comme un média politique à part entière ?
Alors on tracte pas que dans les quartiers, on est en train de faire la campagne la plus massive, je pense, qui a jamais été vue depuis longtemps à Limoges sur une municipale. On fait toute la ville dans son ensemble, les quartiers oui, mais toute la ville. Je crois qu'en plus d'ailleurs des journalistes à vous ont croisé nos militants ce matin vers la place des Bancs. Donc vous voyez.
En centre-ville.
Et ensuite,
de Limoges,
oui, les réseaux sociaux c'est utile, ça nous permet d'en dire plus aussi. Moi je pense que c'est important, ça fait partie voilà des outils. À titre personnel, quand j'ai été élu, j'avais ce soulagement d'avoir des gens qui s'occupaient de la communication. Bon, finalement ça marchait pas tant comme ça parce que après on doit aussi la prendre en main. Moi je regarde pas beaucoup ce qui s'y passe sur les réseaux sociaux, paradoxalement. Mais j'utilise beaucoup parce que, voilà, je pense que c'est un moyen de communiquer. Et puis c'est vrai qu'on a quand même pas mal aussi d'abonnés et que les gens aussi nous reconnaissent grâce à ça.
Au-delà de la communication, Damien Maudet, il y a la transformation de cette communication. Nous, on aimerait bien que vous nous... Sinon prendre des engagements, en tous les cas, nous expliquer comment ça va se passer entre les deux listes d'Union de la Gauche. Est-ce que vous envisagez quel serait le scénario vous en tête, ouais. Thierry Miguel en tête, bah, comment
vois,
ça se passe
dans ces... il me reste peu de temps, alors je vais essayer d'aller très très vite. Du coup sur ça, nous, moi j'ai toujours été pour Union de la Gauche dès le premier tour, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui le Parti Socialiste a fait un autre choix, pensant à mon avis préserver des conseillers municipaux plutôt que d'aller chercher la victoire. Alors nous on leur a dit, bon, on pense que la victoire est possible, donc on va tout faire pour aller vers cette victoire là quand on sera en tête, on leur proposera de nous rejoindre. J'ai été toujours clair là-dessus, je continue de l'être. Je ne sais pas si eux vous ont répondu. Mais
est-ce que vous voulez, s'ils vous proposent de...
Ça c'est ce que je dis, c'est pas tout à fait la bonne question pour moi. Après, si vous les posez, mais moi je le dis, c'est celui qui est en tête qui a la responsabilité d'accueillir le second. D'ailleurs, en 2020, le Parti Socialiste est en tête, n'a pas été en mesure d'accueillir les écologistes. Et donc c'est pour ça qu'ils aussi, notamment pour ça qu'ils ont perdu. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est celui qui est en tête qui doit expliquer ce qu'il va proposer. Moi je le dis, en tête, on propose aux socialistes de nous rejoindre.
Et pour conclure cet entretien, Damien Maudet, vous avez choisi un titre qui tranche avec les formats plus classiques de fin d'émission, un morceau de rap français, King, signé Rimka, figure du groupe 113. Pourquoi ce choix?
Alors au début, j'hésitais avec Farlo et son son, qui est un jeune rappeur limougeot du Sablard, qui a fait Ville Grise, parce qu'il dit Ville Grise doit prendre la tête, et je pense que notre ville, qui est souvent appelée Ville Grise, faudrait lui mettre un peu de couleur, mais effectivement la faire briller davantage. Et j'ai pris King, alors c'est du rap, mais c'est pour rassurer tout le monde, notamment sur l'âge, c'est Rimka, qui doit bien avoir 50 ans passé, je pense, parce qu'il était du 113. C'était Cérémonie des JO, je l'ai pris pour deux phrases, c'est Tous ensemble, on pourrait s'unir et changer le monde, et la deuxième, je veux pas être un super héros, mais juste un super humain.
Damien Mondé, merci pour cette conclusion et on vous donne rendez-vous au second tour.
Je l'espère.
À bientôt.
Combien d'embûches et de pièges le long de mon chemin. Je veux pas être un super héros, juste un super humain. J'avance sans la peur du lendemain. L'espoir dans le cœur, l'avenir entre les mains. J'ai sorti le drapeau blanc et pur comme la colombe. Tous ensemble on pourrait s'unir et changer le monde. Oh. Juste un jour de paix pour faire cesser les ponts. Juste un jour de pluie pour camoufler mes larmes qui tombent. Connais chaque ruelle de Paris, même les yeux fermés. Je veux devenir le prince des villes comme Michel Berger. Concentré sur les angles morts, j'fais du good job. Je me balade dans le rider, je fais comme Snoop Dogg. Je tombe, je me relève, j'ai vu la foudre tomber sur mes rêves. Je suis pas le bon ni le mauvais élève. Être meilleur pour rejoindre l'Éden. Les échecs qui m'ont fait grandir, les sceptiques que j'ai fait mentir. Les ambitions, les espoirs, je vais te raconter mon histoire. Je vais te raconter mon histoire, les ambitions, les espoirs. Toujours debout, faut y croire. Aux villes-lumières, sens-tu la chaleur de notre cœur. Sur mes cicatrices, tu peux deviner mon itinéraire. Enfant de la rue, de l'univers. On repeint les quartiers populaires, on cache la misère. Je fais un tour dans ma zone, je fais ma ronde. Mon bâtiment fait partie des sept merveilles du monde. Combien d'embûches et de pièges le long de mon chemin. Je veux pas être un super héros, juste un super humain. J'avance sans la peur du lendemain. De l'espoir dans le cœur, l'avenir entre les mains. Tu peux devenir le prince de la ville. Devenir le king, puis devenir l'empereur. Durer la vie, j'en paye les erreurs. Durer la vie, donc j'ai blindé mon cœur. Je veux pas être un super héros, juste un super humain. J'avance sans la peur du lendemain. Quand tu veux.
C'était Objectif Municipal, le rendez-vous des candidats face aux journalistes de nos rédactions.